bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Jean-Luc Mongrain.
Nous avons nos monstres. Tout le monde, ça nous prend un monstre quelque part. On a le monstre du Pouinigamouk, on a le monstre du Memphrey, mais le père de tous de ces monstres marins, c'est le monstre du Loch Ness. Et pour nous en parler, Christian Page.
Salut Jean-Luc.
Salut. Oui, alors, qu'est-ce qui arrive avec lui?
Mais il commence à être vieux, notre Leslie. Monstre du Loch Ness. Hein? Il a à peu près là, 1500 ans. Quand on regarde les plus anciens récits d'un monstre, une bête lacustre dans le Loch Ness, le Loch Ness, c'est en Écosse. Hein? C'est un peu comme une sorte de grande cicatrice dans le visage de l'Écosse et qui fait 40 km de long sur à peu près 2 km de large. Et donc, depuis le 6e siècle, on raconte avoir vu une créature mystérieuse dans les eaux du lac. Mais là, où la raison de pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que depuis quelques jours, il y a une nouvelle photographie qui fait un peu le buzz, si tu me permets, sur l'Internet. Mm-hmm. Et cette photographie, elle apparaît de manière assez spontanée et l'histoire qui l'accompagne est également assez nébuleuse. Hein. On a un touriste anglais qui venait de Southampton qui se retrouve autour du Loch Ness au mois de septembre dernier, donc septembre 2019. Et voilà qu'il raconte qu'alors qu'il se trouvait près du château d'Urquhart, hein, il faut savoir que c'est une espèce de promontoire où il y a un vieux château du 12e siècle qui est probablement l'endroit où il y a eu le plus d'apparitions de la créature.
Bien sûr, ça c'est brumeux un peu.
Hein, oui, voilà, ça se trouve à Drumnadrochit, un petit village. Et pour situer un peu les auditeurs, hein, Drumnadrochit, il y a 2 musées du monde du Loch Ness, 10 hôtels, 20 restaurants, 2 maisons. Donc, ça situe un peu comment le commerce local autour du monde, il est très important.
Il est très important.
Donc, en fait, le monstre du Loch Ness rapporte chaque année à l'industrie touristique locale quelque chose comme 200 millions de dollars.
Mais voyons donc.
200 millions de dollars. Donc, ce n'est pas négligeable.
C'est facile de piéger du monde, tu penses?
Je vais revenir là-dessus.
Oui, d'accord.
T'es en train de me couper l'herbe sous le pied.
Donc, je noie ton poisson.
Oui, exactement. Il y a peut-être anguille sous la roche.
Peut-être qu'il y a de l'anguille sous la roche. Parce que...
Donc, voilà que notre touriste se trouve là au mois de septembre dernier.
C'est la lanterne, vas-y.
Et là, il dit, voilà, je vois une espèce de remous dans les eaux. Je prends mon appareil photo et je prends une série de clichés. Mais visiblement, notre touriste n'est pas très curieux parce qu'il retourne chez lui et oublie littéralement ses photographies. Oh. C'est sûr, tu vois le monstre du Loch Ness, tu oublies que tu as pris une photo.
Mais non, c'est sûr, voyons donc.
C'est sûr. Et donc, voilà, durant la période de confinement du COVID-19, notre bonhomme décide de regarder ses vieilles photos de voyage et là, tombe sur les photographies qu'il a prises en septembre dernier.
Et là, voilà.
Miracle, il voit à la surface de l'eau une espèce de remous et sortant de ce remous, un gros dos tacheté, moucheté, devrais-je dire, qui fait à peu près...
Une petite mouchetée.
Ouais, elle fait quand même 2,50 de long, notre petite truite mouchetée. Donc, il dit, voilà, photographie. Et là, il la publie, hein, il la met sur son site Facebook. Il communique avec un centre qui analyse, qui est en Écosse et qui s'intéresse beaucoup aux monstres du Loch Ness. Donc, il leur envoie la photo, qui, eux, la mettent, bien sûr, sur leur site Internet. Et là, l'affaire fait boule de neige. La photographie fait la une d'un journal en Grande-Bretagne, de Londres, hein, qui s'appelle The Mirror. Mm-hmm. C'est une espèce de tabloïd particulièrement sérieux, entendons-nous. Et là, avec une entrevue du bonhomme qui lui raconte toute son histoire de monstre. Mais inutile de dire que l'affaire soulève énormément de scepticisme. On n'est pas étonné.
Arrête donc!
Et pourquoi? Parce que juste avant la pause, tu disais, oui, on a nos monstres ici à du lac Memphrémagog, tout ça, et tu as tout à fait raison. Mais quand on parle des histoires de monstres, comme le monstre du lac Memphrémagog, on ne peut pas, honnêtement, si on est de bonne foi, on ne peut pas dire est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas. On ne sait pas.
Je viens de ce coin-là, moi.
Je sais, donc, je t'assais déjà partisan. Mais dans l'histoire du monstre du lac Memphrémagog, c'est vraiment une question de foi. Peut-être que j'y crois, peut-être que j'y crois pas. Le bon sens nous dit que c'est peu probable, mais on sait jamais.
Mais t'es tout en train de défaire mon tourisme.
Je sais, tu sais que le monstre du lac Memphrémagog a déjà fait l'objet d'une pièce de monnaie canadienne. Il a été frappé sur une pièce de monnaie canadienne. Cela étant dit, dans le cas du monstre du Loch Ness, on a la preuve irréfutable, scientifique...
Qu'il n'existe pas.
De sa non-existence.
Tu vois, hein?
Hein? Et il faut le rappeler, hein, en 2018, il y a un scientifique, un type qui s'appelle Neil Gammell de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Il s'est rendu au Loch Ness pour prendre des échantillons d'eau, particulièrement dans le secteur de la baie d'Urquhart, là où apparaît souvent le monstre.
C'est là qu'il reste.
Oui, c'est ça, sa caverne est cachée là. Okay. Et ce qu'il voulait faire, c'est une analyse d'ADN environnemental. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADN environnemental? C'est une technique d'ADN qui se sont beaucoup améliorées au cours des 20-30 dernières années. C'est une véritable révolution. Et tu sais que tout animal contamine son environnement.
Hein, on laisse des morceaux. On cherche, oui?
Oui, on perd des bouts de peau, des bouts de poils.
Des excréments.
Oui, on fait des petits pépites, des petits caca, et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les poissons et tous les autres animaux. Donc, on peut maintenant, en prenant des échantillons d'un environnement, par exemple dans un lac, on peut, uniquement en analysant les éléments ADN qui sont dans l'eau, déterminer quelles sont les espèces qui y vivent. C'est ce qu'a fait le docteur Gammell. Il s'est rendu donc été 2018. Il se rend au Loch Ness, prendre des prélèvements d'eau. Les techniques utilisées sont tellement bien peaufinées. Écoute, qu'il a pu déterminer dans cette eau des échantillons de canidés. Donc, les gens, les riverains qui font baigner leurs chiens dans le Loch Ness, ben, les chiens ont laissé des petits bouts de poils qui sont apparus aux analyses ADN. On a également trouvé de l'ADN de cerfs. Parce que les cerfs dans les forêts qui bordent le Loch Ness vont boire dans le Loch Ness. Et certains ont vu des cerfs traverser le Loch Ness. Ah ben donc, oui. Les cerfs ont laissé de l'ADN. Et on a regardé tous ces ADN, on a trouvé toutes sortes de poissons, toutes sortes de variétés d'animaux qui vivent dans l'eau.
Ouais.
Mais crois-le ou non, on
n'a
trouvé aucun ADN inconnu.
C'est normal. C'est tout à fait normal. T'as pas de comparable. Tu le sais pas, c'est quoi
mais
son ADN.
On aurait trouvé un ADN qu'on n'aurait pas pu identifier avec les répertoires de taxonomie. Tu comprends? Okay. Donc, on a des répertoires avec tous les animaux, hein, et on n'a pas trouvé un ADN inconnu. Donc, il n'existe pas. À moins de croire aux licornes et à croire un animal qui ne fait pas pipi puis qui ne fait jamais caca dans son environnement, c'est pas possible. Le monstre du Loch Ness n'existe pas. On peut peut-être
Qu'est-ce que c'était sa photo, un montage?
Voilà. Donc, on commence à regarder vers l'idée du montage et on se dit, c'est quand même curieux que cette photographie apparaisse au tout début de la saison estivale.
C'est bon pour le tourisme.
C'est bon pour le tourisme et ce serait pas la première fois. Je te rappelle, en 2015, la mairesse de la ville de Puinegamook, tu l'as mentionné, hein, qui elle aussi a son histoire de monstre, le monstre ponique,
ben oui.
La Louise Labonté, qui est la mairesse qui est toujours en fonction aujourd'hui, elle avait chargé une compagnie de Rimouski de faire une fausse vidéo où on voyait un poisson géant qui émergeait des eaux du lac Puinegamook. Et pendant un temps, cette vidéo a circulé sur YouTube et d'autres médias sociaux en disant, voilà, on a une image du monstre Puinegamook et tout ça pour mousser la publicité. Finalement, la mairesse avait dit, c'est une blague. Ce qu'on voulait, c'est que, faut dire que la ville de Puinegamook, quand l'une de ses slogans, c'est au-delà de la légende, ou plus grand que la légende, faisant référence, bien sûr, à son histoire de monstre. Donc, elle a joué cette carte-là du monstre et ça l'a bien fonctionné. Donc, c'est pas la première fois qu'on utilise ces légendes-là pour mousser l'industrie touristique. Et comme je te l'ai mentionné, le fait que la photo apparaît juste au début de la saison estivale, le fait que l'an dernier, les conclusions du docteur Gammell en disant le monstre n'existe pas, on a trouvé beaucoup d'ADN dans le Loch Ness. Est-ce que ça a suffi à donner naissance au monstre? Peut-être que des gens ont vu des anguilles de grande taille dans le Loch Ness et que ça a alimenté les légendes du monstre. Je ne sais pas. Mais il est clair que les circonstances dans lesquelles cette photo apparaît n'est pas sans rappeler certaines campagnes publicitaires qui ont été menées dans le passé. Mm-hmm. Et c'est sûr que quand le monstre du Loch Ness vit, rapporte dans l'industrie locale, puis il faut le savoir, hein, je sais pas si tu y es allé, Jean-Luc, dans ce coin-là.
Non.
Moi, j'y suis allé, j'ai fait un reportage pour la télévision.
Toi, t'es un globe-trotteur
du
mystère.
Oui, un globe-trotteur du mystère. Et je dois t'avouer qu'il y a pas grand-chose là. Hein. Si c'est pas le monstre, tu vas trouver que l'endroit est très brûlé.
Il n'y a pas de bonne raison d'aller là.
Les grands châteaux écossais, on est loin d'Édimbourg ici. Là. Okay. Tu sais, les grands châteaux écossais. français, là, des Highlands, là, c'est pas dans ce coin-là.
C'est pas ça, là. Donc, c'est 3-4 tas de roches, puis that's it.
Voilà, si tu te retrouves dans ces coins-là, si tu te retrouves à Drumnadrochit, Jean-Luc, c'est parce que tu voulais... Oui, t'es perdu ou tu cherches le monstre. Il n'y a pas d'autre solution.
On s'arrête pour une pause parce qu'on va parler d'ADN des Républicains. Marco Rubio, qui est en train d'aider par la fiscalité, la recherche d'OVNI ou je sais pas trop quoi.
Les petits hommes verts, oui.
Les petits bonhommes verts. Mon Dieu Seigneur. On revient tout de suite.
Pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Jean-Luc Mongrain.
Écoutez, vous le savez, le monde entier est sous la coupe de la pandémie. Alors, il y a des gens qui savent établir certaines priorités. Et c'est le cas du sénateur républicain Rubio aux États-Unis. qui dit, écoutez, on va s'occuper des petits bonhommes verts puis de leur fiscalité. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
C'est amusant parce que j'ai eu exactement la même réaction en lisant cette
nouvelle-là. First thing first, comme ils disent en latin.
Oui, voilà. Donc, ce Marco Rubio, tu l'as mentionné, c'est un sénateur républicain de la Floride. Il est également le président du comité sénatorial sur l'entrepreneuriat et les petites entreprises. Ouais. Et c'est donc on le voit ici, il est en train de jongler, lui et d'autres élus, bien sûr, sont en train de jongler avec les lois fiscales, ce qui pourrait aider les petites entreprises, l'entrepreneuriat. Et voilà qu'il dépose un amendement, un projet de loi qui porte le numéro 2021. Et cet amendement, ce qu'il voudrait, c'est que le gouvernement américain, le Pentagone en particulier, le département de la Défense, fasse preuve de plus de transparence par rapport à ses enquêtes sur les OVNI.
Ben voyons.
Écoute, j'ai le texte devant moi, je te lis l'extrait, il dit... Harmoniser la collecte d'informations et les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, leurs liens potentiels avec des gouvernements adversaires et les menaces qu'ils posent aux équipements et aux édifices de l'armée américaine. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Bon, ici, il faut quand même préciser, parce que pour les amateurs de petits hommes verts, ce n'est qu'une demi-victoire. C'est pas vraiment une grande victoire.
C'est pas nommément les hommes verts. C'est des objets qui volent qu'on connaît pas. Voilà. Mais de coups là-dedans qu'il y en aurait, tu sais.
Ouais, voilà. Donc, tu as tout compris, c'est exactement cette nuance-là qu'il faut prendre en compte. Et pour bien la comprendre, il faut que je te ramène quand même en 2017. En 2017, il y a une publication en décembre 2017, le New York Times publie un article en disant « Le gouvernement américain, entre 2008 et 2012, avait une espèce de cellule qui enquêtait sur les phénomènes aériens non identifiés, dont l'acronyme était ATIP, et en français, ça veut dire « Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales ». Donc, un programme pour étudier les OVNI. Parce que juste avant cette publication du New York Times, si tu faisais une demande citoyenne au gouvernement américain sur la question des OVNI, il te répondait « C'est vrai que le département de la Défense s'est intéressé aux OVNI, mais il a retiré ses billes en 1969 avec la fin du projet Blue Book. Merci, bonsoir, on n'en parle plus.
Ouais. »
Alors là, la révélation du New York Times, c'est de dire « C'est pas tout à fait vrai. » Il y a eu cette petite unité qui s'est intéressée aux OVNI. On a investi 20 millions de dollars là-dedans.
Combien?
Tu me dis 20 millions. Ouais. Tu me diras 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais,
mais c'est
20
rien
millions,
pour les États-Unis.
Tu as tout compris, 20 millions de dollars sur 4 ans, quand on sait que le budget du département de la Défense est de 700 milliards par année, ben 20 millions sur 4 ans, c'est de la menue monnaie.
Ben oui. Il doit y avoir 2-3 chums, là, tu peux lui donner une petite suggestion.
Voilà, et je pourrais longuement faire un dossier là-dessus, mais il y a beaucoup de tapage dans le dos, et beaucoup, c'est mon chum, puis c'est mon chum. Mais cela étant dit, à ce moment-là, quand le projet a été rendu public, quand ça a été révélé par le New York Times, certains auteurs ont dit, il n'est pas interdit de croire que ce programme-là ne soit pas terminé, qu'il existe toujours sous d'autres acronymes au sein du département de la Défense.
Okay.
Donc, cette déclaration de Marco Rubio, tu comprends, pour les amateurs d'OVNI qui fantassent sur des visites extraterrestres, eux se disent, voilà, ils viennent de confirmer ce que l'on suspectait depuis les révélations du New York Times, qu'il y a encore au sein du département de la Défense une cellule, un arcane mystérieux qui continue d'enquêter sur les OVNI.
Le flou est un terrain propice à faire pousser toutes les hypothèses.
Je dois quand même te dire qu'après avoir déposé cet amendement, Marco Rubio s'est fait accoster par des journalistes et il a tenu à préciser ce que tu as dit un peu plus tôt. c'est que dans l'imaginaire des amateurs d'OVNI, on peut peut-être parler d'extraterrestres, mais au niveau de la loi, dans son projet de loi, lui, quand il parle de phénomènes aériens non identifiés, il parle explicitement de drones ou d'appareils qui seraient guidés, téléguidés ou d'autres appareils, mais qui proviennent de civilisations 100% terrestres, et ils pointent du doigt particulièrement la Chine. Et je rappelle que la semaine dernière, des avions russes ont été détectés en territoire américain au-dessus de l'Alaska. Donc c'est visiblement de ces menaces auxquelles le projet de loi fait référence, pas forcément les petits hommes verts. Mais tu comprends, les amateurs vont toujours dire, oui, mais il faut pas croire le gouvernement, c'est des complotistes.
Il n'y a pas de crise d'impôt si on trouve un homme vert, non? Des fois?
Non, absolument pas. Mais, ouais. Mais tu comprends, avec les masques maintenant, on ne sait plus s'ils sortent des extraterrestres ou non.
C'est sûr.
Tu portes un masque, tu sais pas.
Ben oui, tu ne sais pas si t'es vert, mais tu viens bleu, par exemple.
Oui, c'est sûr. Petit masque bleu.
Hey! C'est super, mais là, qu'est-ce qui arrive avec cette politique fiscale là? Ils vont être en place là?
Non, pour l'instant, c'est un dépôt qui a été fait. Et si cet amendement il est accepté, le département de la Défense aura 180 jours pour présenter au Congrès américain les mesures nécessaires pour que ce programme-là bénéficie d'une plus grande transparence auprès des élus. Mais encore une fois, d'ailleurs, c'est amusant quand cette histoire-là est sortie en 2017 dans le New York Times, l'armée américaine, évidemment, les amateurs d'OVNI ont inondé le département de la Défense de demandes d'informations. On en veut plus. Qu'est-ce que c'est? Et il faut le dire, le département de la Défense s'est montré excessivement très, très peu loquace hein, pour parler de ces événements-là, mais il a tenu à préciser que quoi qu'en disent les médias, quoi que fantasment les amateurs d'OVNI, il n'a jamais été question d'autre chose au sein du gouvernement que d'engins téléguidés ou inconnus, mais de nations étrangères. Ils n'ont jamais pris en compte l'idée que ces phénomènes aérospatiaux puissent être des engins venus d'une autre planète.
Donc, c'est curieux comment est bâti l'être humain entre toi et moi, Christian, parce que on veut que ça existe. Je ne sais pas c'est quoi cette quête de l'étrange, cette quête de trouver d'autres choses que ce que nous avons en face de nous.
Ça crée, à mon avis, ça fait quand même 44 ans que je suis dans ce milieu-là, et je suis passé d'une croyance naïve. Au début, moi, quand j'ai commencé...
Je m'en souviens.
Il y a toutes ces affaires-là. Mais on devient moins naïf avec le temps. Et je pense que là où ça se brise, c'est qu'on crée un monde enchanté. On aime croire. Tu sais, la fameuse phrase de la série X-Files, « I want to believe ». Je veux croire. On a un monde enchanté. On est visité par des extraterrestres. Les fantômes existent, les licornes, les gnomes, les farfadets. Le monde est plus merveilleux que celui que je vois tous les jours avec Donald Trump, la COVID-19 et tous ces problèmes-là. Je vis dans un autre monde imaginaire où tout est possible, toutes les lois peuvent être redéfinies.
Le monde marche beaucoup plus avec ce qu'on peut pas prouver qu'avec les faits que l'on présente. C'est incroyable.
Oui, les faits, beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup les faits. On dit tout le temps on veut la vérité, mais des fois on veut plus avoir raison que la vérité.
Merci sur cette conclusion d'une grande ouverture philosophique. Et on se retrouve éventuellement.
La semaine prochaine, Jean-Luc.
OK, bye-bye, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Nous, on se retrouve demain, là. Au revoir.